si vous nous rejoignez ce matin pour la première fois, vous tombez sur le troisième et dernier volet de cette série sur la parentalité que nous étudions ensemble. Je pense que tout le monde peut constater qu'être parent à notre époque n'est pas facile, mais certainement cela ne l'a jamais été. Cela fait quelques dimanches donc que nous essayons d'encourager et d'équiper les parents, mais non seulement les parents, aussi les grands-parents, les futurs parents, les enfants des parents que nous sommes tous finalement, à vivre ce que Dieu veut pour nous, avec ce constat simple à l'approche de Noël que tout le monde, je pense, sur lequel tout le monde est d'accord. Bien plus qu'une voiture télécommandée, bien plus qu'une boîte de Lego, bien plus que le dernier smartphone, le meilleur cadeau que vous pouvez donner à vos enfants et à votre entourage, c'est une éducation morale, une éducation de caractère qui va les équiper à la vie. Et nous disons même une éducation chrétienne, puisque nous voici dans une église chrétienne et nous voulons transmettre la foi à la génération suivante. Alors, et ce matin, avec nos trois baptisés qui sont issus de familles chrétiennes, c'est aussi un sujet de reconnaissance. Nous célébrons, oui, ce que Dieu a fait et les fruits d'une éducation chrétienne. Et c'est merveilleux. Mais peut-être dites-vous, oui, tout ça, c'est un peu normal, quoi. C'est même un peu trop facile. C'est un peu automatique, quoi. Les enfants de chrétiens qui deviennent chrétiennes, bien sûr. Peut-être vous dites, moi, je n'ai pas reçu le cadeau d'une éducation chrétienne. Ou peut-être vous dites, moi, j'ai essayé de transmettre ce cadeau et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un espoir pour moi? Comment vivre à notre époque où c'est quand même difficile? Et donc ce matin, en fait, j'aimerais voir un personnage de la Bible. Il s'appelle Josias. C'est un roi de l'Ancien Testament. Et ce Josias, malgré un contexte difficile, malgré l'absence total d'une éducation chrétienne, ce Josias, il a agi fidèlement comme il a pu, et il a même transmis une éducation biblique à son entourage, et nous allons voir que le reste appartient à Dieu, et nous voulons encore ce matin nous confier en Dieu pour ce reste. Donc je vous invite à écouter ou chercher dans votre Bible 2 Rois, chapitre 22. Et même, on va commencer en chapitre 21 pour avoir un peu l'arrière-plan de Josias. Vous savez, les histoires des rois se trouvent en deux endroits dans l'Ancien Testament. Il y a le récit dans le livre des rois et aussi un récit parallèle dans le livre des chroniques. Donc, je vais m'appuyer surtout sur le texte en 2 Rois. Mais si vous voulez compléter les détails, vous pouvez aller chercher en 2 Chroniques 34 et 35 aussi. Donc une première lecture, c'est un long texte, nous n'allons pas tout lire toute sa vie, mais nous allons suivre un peu son évolution dans la foi et à l'époque difficile, des heures sombres qu'il vivait. Donc 2 Rois, chapitre 29, donc je vous raconte un peu son père, son grand-père d'abord. 2 Rois, chapitre 21, verset 19. J'affiche, voilà, il est là. 2 Rois 21, verset 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harut de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père, il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il avait fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adjadja de Bokat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. reprendre la suite dans quelques instants. Mais nous allons voir ce matin qu'à travers la vie de ce Josias, que oui, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas l'époque à laquelle nous vivons. Parfois, l'époque est une mauvaise époque, une époque difficile. Parfois, il s'agit des heures sombres. Mais nous pouvons jouer avec les cartes que nous avons reçues à la gloire de Dieu. Et c'est ce que va faire Josias et ce qui va nous encourager aussi dans l'histoire de l'éducation chrétienne. Alors pour ça, j'aimerais voir tout d'abord dans la vie de Josias un arrière-plan pourri. Ensuite, nous allons voir une démarche personnelle. Ensuite, une découverte prodigieuse. Et enfin, une piété insuffisante. Alors je vous invite à suivre sa vie ainsi. Tout d'abord, un arrière-plan pourri. Donc, le grand-père de Josias, il s'appelle Manassé, c'était le pire roi de tous les temps. Vraiment, l'idolâtrie et tout ça, mais il était allé jusqu'à brûler vif son fils, à passer son fils par le feu. Ça, vous l'avez le détail en verset 6, 21, verset 6. Donc, le grand-père a tué parmi des enfants pour les sacrifier aux idoles. Donc voilà déjà ce contexte. Et puis son père, le père de Josias, Amon, comme nous avons lu, a été assassiné à l'âge de 24 ans, donc quand lui, Josias, avait 8 ans. Et souvent, quand on assassine le roi, on liquide les enfants aussi, mais Josias a eu la vie sauf. Donc déjà un peu le contexte familial, hein. Mon père a été assassiné quand j'avais 8 ans. Mon grand-père, c'est le pire du roi de tous les temps. Voilà ce que Josias hérite comme situation, comme éducation familiale. Il a failli ne pas exister. C'est pas facile à porter cela. Ça, c'est le contexte familial. Maintenant, le contexte religieux de son époque. Ce contexte religieux est tout aussi pourri. Il vit à une époque complètement idolâtre, corrompue, notamment à cause de son grand-père qui avait vraiment conduit le pays vers le mal. Et malgré un instant de repentance chez Manassé, son fils Amon, le roi suivant, a continué à conduire le pays loin de Dieu. Selon chapitre 21, verset 16, même Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, il répandit beaucoup le sang innocent à Jérusalem. Beaucoup, déjà, ça parle d'une violence un peu inouïe, mais cette phrase dans l'Ancien Testament, souvent, parle des sacrifices de bébés, d'enfants, envers les idoles et les faux dieux. Donc, quand on sacrifie les bébés, quand on remplit la ville de ce sang innocent, là, on est d'accord, une société touche le fond moral. Et voilà le monde, le pays dans lequel grandit Josias. Donc, un contexte familial très compliqué. Mon père a été assassiné quand j'avais 8 ans. Et puis, ce grand-père. Bon, c'est vrai qu'au niveau contexte religieux, ce qui reste un peu à Jérusalem, en tout cas, c'est comme trace de Dieu, comme trace de la foi, c'est le temple. Il y a cet édifice religieux qui domine la ville, impressionnant. Mais quand on creuse un peu les détails, ce temple est devenu même un lieu de paganisme et de débauche. Plus tard, on apprend au chapitre 23, verset 7, que dans la maison de l'Éternel, dans le temple, il y avait des maisons de prostituées. Prostituées. A.S., donc des hommes, des mâles, dans le temple. Donc, voilà le contexte religieux que Josias hérite. Et dans tout ça, il y a zéro connaissance de la Bible, voilà son arrière-plan. Et quelque part, ça fait parfois penser un peu à l'Europe, à notre époque. Il y a des traces d'un héritage chrétien, culturel, il y a des édifices religieux qui nous rappellent quelque chose, peut-être, mais dans les faits, nous sommes très loin de la foi, de la vérité dans certains contextes. On se dit, on est peut-être mieux qu'eux, nous on ne répand pas le sang innocent, Mais j'ai bien peur que oui, que les enfants au sein de leur mère ne sont pas si protégés que ça dans notre monde, et avec les lois en cours. Et des fois, on n'a même pas le recul pour voir que ça fait partie des sangs innocents, de ces sacrifices d'enfants. Donc vous voyez que Josias n'a pas reçu le cadeau d'une éducation chrétienne. Et on pourrait s'attendre à ce qu'il marche dans la voie de ses pères. Peut-être vous n'avez pas reçu le cadeau d'une éducation chrétienne. Et vous réfléchissez avec cet automatisme. Voilà, un enfant de chrétien, il est chrétien. Un enfant d'athée, il est athée. Un enfant de musulman, il est musulman. Un enfant de juif, il est juif. Mais nous allons voir que ce n'est pas une fatalité. Nous allons voir que Josias a fait ensuite une démarche personnelle. Malgré cet arrière-plan pourri, il a fait une démarche personnelle que je vous invite, vous, à faire aussi ce matin. Pour ça, j'aimerais vous montrer quelques détails en 2 Chroniques, chapitre 34. Donc, le même récit, mais on a quelques précisions. 2 Chroniques, juste quelques livres plus tard, 34. Donc, vous savez, on a appris qu'il devient roi à 8 ans. C'est déjà un peu exceptionnel de prendre les rênes du pays à 8 ans. Mais verset 3, 34, 3 et 4, la huitième année de son règne, donc il a quel âge ? Voilà. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la douzième année, il a quel âge ? Il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. Donc, en combinant le récit des rois et celui des chroniques, nous voyons un peu plusieurs étapes clés dans la vie de Josias. Il devient roi à 8 ans, mais à 16 ans, c'est la 8e année de son règne, il fait une démarche de commencer à chercher Dieu, le Dieu de David. Et puis, à 20 ans, 12e année de son règne, il commence à purifier le pays, en tout cas, des idoles. Et puis nous allons voir une troisième étape à 26 ans. Il va faire une découverte prodigieuse et ça va être la révolution, la grande réforme. Mais commençons avec ces premières étapes, 16 ans, 20 ans, plus tard 26 ans. À 8 ans, certainement, sa vie est gérée peut-être par un entourage des régents qui gèrent le pays. Mais à 16 ans, on commence à devenir mature, capable de réfléchir pour soi. Et à 16 ans, il doit se dire, voilà, je suis roi. Comment, moi, je vais me comporter ? Il y a une notion de responsabilité qui tombe sur ses épaules. Comment je compte, moi, conduire ma vie ? Comment je compte diriger mes affaires, les affaires sur lesquelles je suis responsable. Et en cela, même une mauvaise éducation peut servir pour dire, en tout cas, je ne veux pas faire comme ça. Je ne veux pas finir comme ça. Je comprends qu'il dit, je n'ai pas envie d'être assassiné dans quelques années. Mon père a été assassiné à 24 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour l'être, mais je n'ai pas moins envie d'être assassiné. Donc peut-être qu'il y a une autre voie à suivre. Quand il voit tous ces sacrifices d'enfants, de bébés, il dit, est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce que je vais devoir déposer mon enfant dans le feu pour avoir la bénédiction, pour satisfaire les idoles ? Ma conscience rejette ça quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie ? Donc déjà, à 16 ans, il commence à chercher, pas le Dieu de son père lui, de son grand-père lui, quelque part, qui ont suivi les idoles, ça dit qu'il commence à chercher le Dieu de David. Il a entendu parler d'un ancêtre bien plus loin que lui a vécu autrement. Et donc déjà par ça, il va faire une démarche personnelle. Je cherche le Dieu de David. On me parle de David, le grand roi David. Le temple, c'est lui qui l'a construit. Les psaumes, c'est lui qui a écrit. Ça m'intéresse de connaître le Dieu de David, pas les Baals et les idoles de mon père, grand-père. Je vois où ça amène. Je veux peut-être chercher autre chose. Je suis étonné, même en France, c'est vrai qu'on est un pays assez séculier, athée, mais quasiment tout le monde que je rencontre peut dire, à un moment dans sa vie, j'ai eu contact avec une grand-mère, un ami, un voisin, un professeur qui suivait le Dieu de la Bible, qui m'a laissé peut-être une trace, une Bible, un traité, une remarque, et ça fait réfléchir. Donc même si vous ne l'avez pas directement de vos parents, vous l'aurez souvent quelque part. Et en tout cas, Josias, à chaque étape, il agit avec la lumière qu'il a reçue. À 16 ans, il commence à chercher Dieu, le Dieu de David. Et puis à 20 ans, il commence à dire, toutes ces idoles et cette violence, j'aimerais me débarrasser un peu de tout ça. Et ça, c'est déjà un encouragement pour chacun de nous. On peut toujours agir, au moins avec la lumière que nous avons reçue, sur le présent. Jésus lui-même a enseigné cette vérité à plusieurs reprises. C'est vrai que nous n'avons pas tous reçu les mêmes ressources spirituelles, nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, nous n'avons pas tous reçu les mêmes talents, nous n'avons pas tous reçu la même éducation. Mais chacun peut investir ce qu'il a reçu. Et Jésus a souvent dit, si vous êtes fidèle avec le peu qu'on vous donne, on va vous confier plus et vous allez pouvoir avancer et en prendre ce plus pour ensuite le partager à d'autres. Donc vous voyez, Josias, au lieu de se victimiser, voilà, j'ai eu ce père, j'ai eu ce grand-père, c'est mort pour moi. Au lieu de se victimiser, il se responsabilise. Ça, c'est glorieux. Et la vie de Josias, comme la ligne des rois tout au long de l'Ancien Testament, la vie de Josias montre que finalement, chaque génération est responsable pour elle-même. C'est une des grandes valeurs de la Bible que je trouve libératrice. L'importance de l'individu et de ses choix. Parce que le monde vous invite à vous voir comme victime. Victime des circonstances, victime du passé, produit du hasard. On vous dit, vous êtes né comme ça, alors vous n'y répondez rien, vous ne pouvez pas changer. Vous êtes obligé à faire hommage aux idoles de notre époque, parce que tout le monde fait comme ça. Ça, c'est le message du monde. Mais la Bible offre quelque chose, je trouve, beaucoup plus intéressant. La Bible offre ce chemin libérateur. Voilà, vous pouvez, malgré les circonstances, oui, on peut vous appeler une victime, mais vous avez reçu quelque chose. Vous pouvez agir, vous pouvez choisir d'aller vers la vérité, vers la responsabilité, vers la lumière. Alors, quelle que soit l'éducation que nous avons reçue, finalement, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a un moment où il faut faire une démarche personnelle. D'ailleurs, c'est un peu le cœur des églises baptistes. C'est pour ça qu'on ne baptise pas des bébés, mais on baptise des personnes qui, eux, ont fait une démarche personnelle auprès de Dieu, en disant, ce n'est pas juste ce que j'ai reçu de mes parents, c'est ce que moi, je veux faire personnellement. Et ça change un peu la manière de concevoir la foi. Quelle que soit l'éducation que nous avons reçue, bonne ou mauvaise, il faut faire une démarche personnelle. Évidemment, le niveau de responsabilisation n'est pas pareil à 8 ans, à 16 ans, à 20 ans, à 26 ans. Et le niveau, c'est pas pareil si on est roi de tout le pays ou si juste on doit maîtriser sa propre chambre, son propre téléphone portable, son propre agenda. Mais à chaque moment, on peut agir et chercher Dieu et chercher à maîtriser, à bien diriger le champ qu'il nous a accordé. Et bien sûr, c'est jamais trop tard, mais effectivement, le créneau 16-26 ans est déterminant pour une démarche personnelle, comme vous voyez dans nos jeunes baptisés. Ces âges-là sont capitales pour prendre des décisions qui vont affecter toute la vie, pour se responsabiliser devant Dieu. Comment je devais me comporter? Quel sens je vais donner à ma vie? Quelle vérité, moi, je vais poursuivre? Donc, je vous demande encore aujourd'hui, malgré que vous avez reçu une éducation chrétienne, vous ne l'avez pas reçue, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer avec Dieu, transmettre, vivre la foi et la transmettre? Josias, malgré tout ce qu'il a reçu, à 8 ans, à 16 ans, à 20 ans, il a fait des choix sages, où il se responsabilise au lieu de se victimiser. Et après, avec déjà ces démarches-là, il va maintenant faire une découverte prodigieuse. Donc, nous avons lu déjà que Josias, il est roi du pays. Donc, en tant que fonctionnaire, il doit entretenir les infrastructures, il doit entretenir cet édifice religieux à Jérusalem. C'est très présent, le temple. Cela fait, je pense, jusque-là, ça fait partie un peu de la gestion du patrimoine, comme les fonctionnaires doivent faire. Donc, ce jour-là, selon verset, si on revient au chapitre 22, 2 Rois chapitre 22, verset 3, donc la 18e année de son règne, maintenant il a 26 ans. Et donc, il y a un projet de rénovation, de restauration du temple. Ils ont un budget, ils ont de l'argent qui arrive. Et il dit, je vous lis maintenant la suite, chapitre 2 Rois, chapitre 22. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Donc, ils mandatent des gens qu'ils ont reçus un peu comme des impôts. Et maintenant, ils disent, allez, faites les réparations nécessaires. Verset 8. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, en faisant ces rénovations, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Verset 10. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et tout ce chapitre et le suivant raconte ce qu'il va faire à la suite de cette découverte prodigieuse. Quelle était la découverte? Mais ils ont trouvé la Bible, ils ont trouvé le livre de la loi, peut-être ils ont trouvé juste Deutéronome, ou ils ont trouvé les livres de Moïse. En tout cas, ils font la découverte de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Quelle découverte prodigieuse, quelle découverte merveilleuse. On n'a pas besoin de se baser sur les traditions, j'ai pas besoin de, plus encore que juste ma conscience, mes envies, ou des bribes de traditions qui me viennent par mon arrière-grand-père. Là, Josias, il a devant ses yeux, il a toute la pensée de Dieu, toutes les instructions claires. Et là, il voit que le pays et le fonctionnement du culte et du temple et de tout est complètement en décalage avec Dieu, ce que Dieu avait dit dans sa parole. Alors lui, il décide, à 26 ans, il décide, on va mettre en pratique cette parole. Donc il commence à faire du ménage. Et donc tout le chapitre 22 et tout le chapitre 23, c'est toutes les réformes que Josias met en place à la lecture de ce livre. Ah bah oui, les 10 commandements, ça dit pas d'image taillée, pas d'idole. Alors là, et puis ça dit qu'il faut faire les fêtes de l'Éternel, la Pâque. Eh ben, on va faire la Pâque. Et puis, vous imaginez, quand ils lisent, sa première réaction, c'est de déchirer ses vêtements tellement le fonctionnement était en décalage avec la parole. Mais une fois qu'il est lancé dans cette découverte, une fois qu'il est lancé dans cette envie d'obéir à la parole, alors là, les choses sont beaucoup moins compliquées. Quelque part, c'est simple. On ne se pose pas 36 000 questions. On a les instructions claires. On sait ce qu'il faut faire. Donc, il y a des idoles partout. Mais il ne se pose pas la question, tiens, on se débarrasse des Baals et est-ce qu'on garde les Astartés et les Molochs? Non. On se débarrasse de tout. Est-ce que on garde, on chasse les balles, mais est-ce qu'on garde la maison des prostituées dans la maison du temple? Non, la question se pose pas. Cette année, qu'est-ce qu'on fait à Pâques? La question se pose plus. On fait Pâques. Dieu voulait qu'on fasse Pâques chaque année. Et je trouve ça c'est précieux pour quelqu'un qui découvre la parole. Je peux commencer à la mettre en pratique et ça révolutionne tout. Pour les parents, c'est utile. Il faut pas juste, tiens. Certaines idoles sont interdites chez nous et d'autres idoles sont autorisées. Non, quand vous avez fait cette découverte prodigieuse que la Bible peut régir ma vie, là, c'est un package, c'est un ensemble et c'est fort. Des fois, des parents peuvent dire, OK, les idoles du sexe, c'est pas bien, mais les idoles de la réussite et du pouvoir, de l'argent, ça, OK, on appuie. Ou l'inverse, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire ce dimanche? La question se pose pas tout au long de la vie. Dieu veut que nous ayons en tant que famille une vie d'église, donc nous allons mettre ça en priorité. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est comme Josias, il se pose plus la question chaque année, est-ce qu'on fait Pâques ou pas Pâques? Il sait que ça fait partie de la volonté de Dieu. Quelle que soit notre génération, quelle que soit notre éducation, chacun de nous, chaque génération, nous avons directement accès à la pensée de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Vous pouvez toujours commencer, même si vous n'avez pas eu des générations de foi transmises de père en fils. Nous avons quelque part le même accès, chacun de nous, puisque nous pouvons l'avoir dans la Bible, dans sa parole. C'est-à-dire, l'éducation chrétienne n'est pas comme un savoir-faire secret transmis de père en fils. Ce n'est pas comme la recette du Coca-Cola. Hein? On aime le Coca et tout ça, ou pas, et la recette reste secrète, mais on arrive... C'est pas ça l'éducation chrétienne. C'est chaque génération, chaque personne, on peut toujours commencer comme Josias. Ah oui, ah ben c'est ça, on va mettre ça en pratique. Tout parent, mais aussi tout enfant, ici, peut lire pour lui-même ce que Dieu attend de nous. Donc Josias, à partir de là, il peut, voilà, il dit plus, ah, oh, j'ai mon père, mon grand-père, je peux pas, c'est comme ça. Non, il lit pour lui-même, il fait cette découverte prodigieuse pour lui-même. Et vous pouvez... vous aussi le faire ce matin. Mais je termine avec un point fort dans l'histoire, ce que j'appelle une piété insuffisante. Piété, ça veut dire voilà, une démarche fidèle, obéissante envers Dieu, croyante. Et maintenant, nous allons lire le bilan de sa vie, un peu le mot de la fin de cet auteur. Et on trouve ça en chapitre 23, vers la fin. Chapitre 23, versets 25 à 27. Donc, voici le bilan qu'on fait de la vie de Josias. Il a fait toutes ces réformes, c'était la révolution du pays. Il a entraîné le peuple vers l'obéissance. Il a dit, on refait alliance avec Dieu, on n'a plus d'idoles. Maintenant, tout le monde va servir Dieu, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, voici le bilan. 2 Rois 23, 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Le meilleur roi qu'ils ont jamais eu en Josias. Mais l'auteur dit, toutefois, c'était pas suffisant pour détourner la colère de l'Éternel contre ce peuple. Sa piété, son exemple, son éducation était insuffisante pour sauver le peuple et les générations futures. Le mal était trop attaché, trop avancé, trop profond. Dans un sens, c'était trop tard. D'ailleurs, son propre fils, le fils de Josias, a choisi de marcher dans une mauvaise voie, loin de l'Éternel. Et j'avais un commentaire juif sur ce passage, donc juif non-croyant, non-chrétien. Donc il dit, ce texte pose un dilemme, parce que voilà, tout ce que fait Josias, et pourtant, je cite, « la vertu du Josias ne peut pas sauver la nation ». Et l'auteur, selon lui, l'auteur lui-même est face à un dilemme. Donc il explique ça avec Manassé et tout ça. Mais un dilemme, en quelque sorte, la vertu de Josias. L'éducation, la foi ne peut pas sauver la nation, ni ses enfants, ni des générations futures. Et quelque part, c'est ce dilemme que nous trouvons dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible et dans nos vies. Toute la Bible sous-entend cette question. Est-ce qu'il y en a un dont la piété est suffisante pour sauver le pays, les générations futures, mes enfants? Est-ce qu'il y en a un qui est suffisamment fidèle et obéissant pour garder une alliance fidèle avec Dieu, pour entraîner le peuple à rester fidèle? Josias ne l'était pas. Est-ce qu'il y en a un autre? Si le meilleur roi ne peut pas le faire, si le meilleur parent ne peut pas le faire, quel espoir? Eh bien, la Bible pose ce dilemme, mais elle répond notamment à Noël que nous allons célébrer ce mois-ci, et surtout la semaine prochaine avec la fête, avec l'annonce des anges. Il vous est né dans la ville de David, c'est-à-dire un descendant de David, de Josias. Il vous est né un sauveur, qui enfin sera le roi dont la piété sera suffisante pour vous. C'est ça le message de la Bible aussi. Les hommes, le meilleur parent n'a pas une obéissance suffisante pour vraiment sauver ses enfants. Mais Jésus, lui, il a obéi à notre place. C'est-à-dire, il a fait ce que nous n'avons pas pu faire. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort à notre place. Et donc lui, il a détourné la colère de Dieu. Josias ne pouvait pas détourner la colère de Dieu du peuple, mais Jésus, il a détourné la colère de Dieu. Aucun parent, aussi pieux que soit-il, aussi vertueux, aussi rempli de prières, peut vraiment transformer un cœur ou sauver ses enfants, sauver les générations à venir. Ça, Jésus seul peut le faire. Nous allons célébrer sa venue dans ce monde. Effectivement, vous comprenez pourquoi c'est important qu'il soit le roi, le fils de David, parce que lui, il fait ce que les rois de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Il est l'enfant parfait, c'est l'enfant qui était toujours sage, et cette perfection et cette sagesse deviennent nôtres par la foi. Ce fils parfait, il nous représente comme c'est lui qui peut garantir cette relation, cette alliance entre nous et Dieu. Et ce cadeau-là, ça c'est le cadeau que je peux vous laisser ce matin. Quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, quelle que soit l'éducation que vous cherchez à donner, le cadeau que vous pouvez prendre, c'est la perfection de Jésus. C'est la colère détournée de Dieu de vous. Vous pouvez prendre ce cadeau, vous pouvez la recevoir pour vous-même, quel que soit votre arrière-plan. Et ensuite, c'est un cadeau que vous pouvez partager avec d'autres, quel que soit le contexte difficile autour de nous, quel que soit des fois le milieu non-croyant qui s'impose, tout ça c'est difficile, je compatis, mais nous avons cette espérance, nous avons ce cadeau de Jésus-Christ, sa perfection, sa justice, et encore ce matin, c'est notre seul espoir. Terminons dans la prière. Seigneur, nous voulons reconnaître que nous n'avons pas été des enfants obéissants en tout lieu. Nous sommes coupables. Nous n'avons pas été des parents fidèles. Nous sommes coupables. Mais nous te remercions de ce que tu nous as envoyé un roi un jour. Tout l'Ancien Testament nous fait anticiper, nous fait désirer quelqu'un qui peut enfin nous ramener à toi, quelqu'un qui peut garantir notre fidélité, notre obéissance. Ces choses que nous n'avons pas nous-mêmes, et nous te remercions pour Jésus-Christ. Il est le cadeau ultime, il est le don ultime que tu nous as donné, le salut en lui, et nous te remercions de ceux qui ont Jésus comme roi, comme sauveur. Ils sont gardés pour l'éternité. Ils ont un nouveau cœur pour marcher dans la fidélité, dans la foi, dans l'obéissance. Aide-nous à recevoir ce cadeau nous-mêmes et le transmettre à notre entourage, que ce soit nos enfants ou nos amis. Nous te remercions pour cette espérance qui s'annonce à Noël, mais tout au long de l'année, d'un fils parfait, d'un roi parfait pour nous. Nous te prions pour les familles de notre Église, nous te prions pour les parents de notre Église, comme cela a été déjà dit. Nous te prions que nous prenions ces choses à cœur. Si quelqu'un ce matin n'a pas eu une éducation chrétienne, tout est à découvrir, eh bien, qu'il puisse faire la découverte prodigieuse de la vérité de ta parole et déjà faire les petits et simples choix à faire aujourd'hui pour marcher dans tes voies. Donne-nous à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.